quartier général. Une division de sur-le-banc.ca.
Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième épisode d'Au quartier général. Donc, ce soir, on va faire un petit peu différent, on va mixer les choses parce qu'on va parler football ce soir. Et donc, l'équipe de panélistes que j'ai avec moi ce soir, à ma compagnie, est composée de Martin Gariepi.
Salut Nick.
Hugo Reich.
Salut
Sim.
Salut Sim.
Et Éloi Fournier. Bon comment ça bon va les gars?
Ça va bien toi?
Ça va très bien. Donc, ce soir, comme je viens tout juste de le mentionner, on va parler football parce que en fait, faut parler de la plus récente campagne des Alouettes de Montréal qui a été, ma foi, pas très excellente.
Tu peux dire désastreuse, honnêtement. La saison est finie. Je pense que tu peux... On passera pas par quatre chemins. Je pense que ça a été vraiment une saison désastreuse à tous les points de vue. Okay. Donc, je sais pas si c'est des questions pour nous, mais ça se peut que ça soit difficile.
Ouais, ça a été assez désastreux, oui.
Ouais.
Vous allez voir, putain, j'ai quand même voulu que vous tiriez du positif.
T'es un gars comme ça.
De tout ça, je suis un gars comme ça.
Un gars comme ça.
On a essayé.
Donc, après avoir parlé, par contre, des Alouettes, en fait, on va se diriger un petit peu vers la NFL pour qu'on parle un peu de ce qui reste à venir. De ce côté-là. Mm. Donc, pour commencer, les gars, la première question que j'avais pour vous ce soir, c'est évidemment, ça a été quoi les plus grandes faiblesses du côté des Alouettes cette saison? Martin.
Écoute, c'est tentant de te répondre tout, mais comme tu dis, il y a un peu de positif, mais on va commencer par le négatif. Écoute, on a fini la campagne à 3 victoires, 15 défaites. La deuxième pire équipe, Hamilton, a fini à 6 victoires contre 12 défaites. Donc, on est vraiment même le 3 victoires derrière le deuxième pire. Premièrement, on peut pas faire autrement que parler du corps arrière. On n'a pas de corps arrière. Donc, on est allé chercher, durant l'entre-saison, Kevin Durant. L'an passé, on est allé chercher Kevin Glenn, qui est maintenant rendu ailleurs et qui connaît plus de succès qu'à Montréal. Mais Kevin Durant n'a jamais été la solution. Trop inconstant. Il a été blessé aussi. On n'a pas de corps d'avenir. C'est ça aussi. Non. C'est qu'on n'a pas de corps en développement. Et on le sait au football, que ce soit un football universitaire américain, québécois, la NFL, la CFL, le corps arrière, c'est la pièce maîtresse à l'attaque. Donc, on avait Anthony Calvillo dans ce temps-là. C'est là où on a connu les meilleures années des Alouettes. Pour l'instant, pas de corps arrière. Ça fait mal. Aussi, les receveurs, très honnêtement, là, à part B.J. Cunningham, qui a connu une bonne saison, oui. Les autres receveurs ont été décevants. Même, on est allé chercher... On est allé chercher, j'oublie son nom, mais on était allé chercher des Redbacks d'Ottawa, puis ça n'a même pas donné, ça a pas donné grand-chose. Ernest Jackson, excuse-moi,
ouais.
qui n'a pas connu des si bonnes performances. Samuel Giguère a été blessé, il n'a pas été un facteur. On a libéré aussi SJ Green, en fait, on l'a échangé, ouais. Qui était à Toronto et qui a fini deuxième dans presque toutes les catégories.
En fait, on échange des pièces et finalement, ça finit par se revirer un peu contre.
Ben oui, parce qu'après, évidemment, ces joueurs-là ne sont pas finis, vont ailleurs. Là, ils sont allés à Toronto, qui est en plus un des rivaux, un de nos rivaux directs.
Ouais,
puis ils nous ont fait mal. Aussi, Bear Woods en défensive. Mm-hmm. Donc, notamment ça, aussi au niveau des coachs, on avait Jacques Chapdelaine, faisait pas l'unanimité. On l'a renvoyé. Kavis Reid a pris l'intérim pour l'instant et il n'a gagné aucun match. Donc, Chapdelen avait sûrement ses défauts. C'était pas la solution à long terme, mais c'était pas
au
non plus.
Au moins,
au moins, il a gagné 3 matchs et Kavis Reid n'est manifestement pas la solution. On a parlé ça, des échanges, libération douteuse. SJ Green, Bear Woods sont allés à Toronto. Vernon Adams, qu'on a aussi laissé partir ou qu'on a échangé. Aux Rough Riders, qui aurait pu être un potentiel. En tout cas, du moins, qui semblait être le joueur le plus intéressant par rapport à ce qu'on a aussi. Puis très honnêtement, la défensive n'a pas été très solide. Il y a eu des blessés, mais contre la course, je pense que pendant 5-6 matchs, on a accordé au moins 100 verges aux porteurs de ballon adverse.
C'est ça, la course, ça a été
donc,
en fait...
En défensive, ça a été assez difficile. Donc honnêtement, là, quand on perd des matchs 33-0 pour finir la saison, ça a été... La deuxième moitié, la première moitié, on a même battu les Stampeders. Jusqu'à un certain moment donné, on était la seule équipe à avoir battu les Stampeders. Donc à Montréal, c'était tout un match. Mais après, ça a été la déconfiture. Puis finir 3-15, c'est assez décevant de ce côté. Donc pour ma part, c'est ça.
Hugo.
Ouais, effectivement. Ben Martin, tu l'as très bien résumé. On parle de Darian Durant qui n'a pas connu une très bonne saison. Samuel Giguère, qui était un des bons receveurs de l'année dernière. s'est blessé, pas connu la saison qu'il fallait. Le départ de SJ Green, Bear Woods, aux Argonauts, aux rivaux, ça, effectivement, ça a causé des trous en défensive autant qu'en offensive. Et c'est là que les Alouettes ont paniqué un peu. Des gros résultats, comme tu l'as dit, Martin, finir la saison sur 33-0, c'est pas la meilleure chose à faire. Je crois que les Alouettes maintenant devraient plus se concentrer sur justement la reconstruction et moins appuyer sur le bouton panique pour essayer de réparer les trous immédiatement. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Je vais me tenir là-dessus. Mais ouais, c'est ça que je pensais. Je trouvais mon carrière ou mettre des attentes moins hautes envers le carrière.
Envers l'équipe en général. Ouais, c'est
ça. Éloi.
Ouais, premièrement, tout au long de la saison, l'offensive n'a absolument rien produit. On a fini avec 314 points marqués. Mm. Ça, c'est 129 de moins que Hamilton, qui est la deuxième pire offensive.
Donc, on est au dernier rang.
Ouais, exact.
Déjà là,
on finit tout juste en haut de nous au classement.
L'offensive va être absolument très, très loin de n'importe quelle autre équipe de football canadien. Mm. Puis, seulement une victoire contre des rivaux de division. Aucune victoire sur la route.
Exact.
Donc, c'est tous des aspects importants, des victoires qu'il faut aller chercher. Parfois, dans une saison, on est allé en chercher aucune. Mm. Puis on a perdu 11 matchs consécutifs, ce qui est un record de concession.
Mais on a perdu, au début de l'année, on a perdu des matchs quand même serrés dans ce début de saison. Donc, ça aurait pu faire peut-être une petite différence. Puis même qu'à certains moments, je pense qu'on était 3-10, mais on était encore dans la course aux séries par la magnifique formule de la Ligue canadienne. Mais comme tu dis après, aucun match gagné à l'extérieur, comme tu peux pas faire les séries. Tu mérites pas de faire les séries, honnêtement, si tu gagnes pas au moins un match.
Tous les matchs serrés ont été perdus pas mal. On pense à Winnipeg, notamment, on menait par 12 avec 2 minutes à faire. Ça s'est retrouvé avec une victoire des Blue Bombers à la fin. Donc, c'est
tout les
occasions échappées, puis ensuite, les joueurs ont arrêté de jouer. L'offensive n'a plus rien fait. La défensive a eu des blessés, puis les joueurs n'avaient plus confiance dans le système d'entraîneur. Donc, on a vu ce que ça a donné. 11 défaites de suite pour finir la saison.
De mon côté, je pense que, pas mal tout a été dit. Du côté de la direction, on a dû faire des changements rapides, un peu comme tu l'as dit, Martin. Je pense qu'on a... Tu l'as bien dit, en fait, je trouve, c'est que... Est-ce qu'on n'a pas essayé, à quelque part, de faire des changements directs pour essayer de, si vous me permettez l'expression, patcher un peu les problèmes trop directement qu'on avait? Évidemment, Jacques Chapdelaine qui est parti, on peut pas nier ça. Il y avait beaucoup de problèmes dans le vestiaire.
Noel Thorpe aussi, le coordinateur défensif qui est parti en même temps. Puis la défensive en début d'année était quand même relativement solide, du moins en tout cas elle performait bien. Ouais. Suite à son départ, là on a vraiment senti. Après, il y a eu d'autres facteurs, mais ça a été vraiment le déclin total. Là, on était plus. C'était des 30 points par match qu'on accordait. Donc, ça aussi, ça a été une décision. Je pense que les deux faisaient pas. Chapdelaine et lui faisaient pas l'unanimité.
Non,
donc, il y a des joueurs qui l'aimaient pas. On a peut-être voulu essayer de garder les joueurs justement pour dire on va les remplacer, on va amener quelqu'un d'autre. Mais les résultats n'ont pas été là.
Puis évidemment, ça a été la même chose côté avec les transactions, comme on a dit, SJ Green qui est parti à Toronto qui a fini en tête de la division Est contre dans la même division que nous. En fait, c'est nos rivaux directs. Donc, on peut pas dire que ça a été des bons mouvements jusqu'à présent, mais c'est certes qu'il faut parler reconstruction et le plus tôt possible. C'est sûr qu'évidemment, ça sera pas du jour au lendemain, mais j'ai confiance de mon côté, en tout cas, que les Alouettes vont remonter la pente.
T'es vraiment un optimiste.
D'ici 3 ans.
Oui,
d'ici 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Là. Évidemment, c'est sûr que dans le prochain repêchage, il faut aller chercher un carrière d'expérience. Je pense que, on l'a assez dit depuis je ne sais pas combien d'années, là. Depuis le départ de Calvillo, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? On n'a plus jamais su
Il n'y a pas eu vraiment de développement. Je pense que ça nous amène un peu à ton deuxième sujet. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les Alouettes s'améliorent? Dans le fond, c'est quoi le processus de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Puis là, malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est pas juste quand tu finis à 3-15, c'est qu'il y a plus qu'une faille. Mais premièrement, comme tu dis, corps d'avenir. On n'a jamais développé un corps. Donc je pense que selon aussi qui sera au repêchage des candidats, mais on va avoir le premier choix, c'est la bonne chose. S'il y a un carrière intéressant, c'est sûr qu'il faut en repêcher un rapidement. Puis le développer, c'est sûr qu'il ne sera pas prêt nécessairement la première année, puis c'est peut-être pas lui qui va faire la différence, mais il faut vraiment commencer à développer. Au lieu d'aller avec le marché des joueurs autonomes, comme tu disais, pour patcher les trous, il faut développer. C'est correct d'aller chercher des joueurs sur le marché, ça fait partie aussi de la game, de la business, mais il faut développer, ça c'est la première chose, je pense. Surtout trouver un nouvel entraîneur. Kavis Reid ne peut pas rester en tant qu'entraîneur. Exact. Il n'a récolté aucune victoire. Donc, c'est sûr, c'est pas la clé. Donc, aller un genre de Mark Trestman, dans le sens où il va avoir de la stabilité. Quelqu'un qui va être là plusieurs années. Chapdelaine a eu une. Lui aussi est arrivé un peu, je pense, l'an passé à moitié. Ouais, en tout cas, il a fait deux demi-saisons.
C'est un arrivé très abrupt. Il a comme jamais eu le temps de d'installer un peu
exact.
Son système, et du moins s'il a voulu l'instaurer, clairement que ça n'a pas fonctionné.
Mais c'est ça, mais c'est sûr, il faut penser à un plan de, comme tu dis, une reconstruction, puis ça sera pas un... Donc, il faut faire un plan de comme 3-4 ans, puis miser, puis comprendre aussi, puis y aller stratégiquement. Je pense aussi tous les gens qui sont dans la direction de l'équipe, aussi dans les bureaux administratifs, ont leur part de responsabilité aussi, puis doivent mettre un plan concret, puis le suivre. T'sais. Donc, c'est sûr qu'on peut gagner à Montréal, mais ça sera pas du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment ça, de mon côté, je pense, qui est le plus important. Corps arrière, bien repêché, puis un entraîneur qui s'y connaît, il va avoir de la stabilité.
Exactement. Un peu comme Martin l'a dit, quand j'ai dit Reed, mais surtout en tant qu'entraîneur, peut-être pas en tant que directeur général, il y a encore des choses à prouver, surtout en termes de repêchage. Trouver un corps arrière stable qui pourrait être éventuellement la pièce maîtresse des Alouettes et pas succomber sous la pression des partisans. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui fait en sorte que les Alouettes connaissent des piètres saisons à cause que le monde veut qu'ils soient forts dans le temps de Calvio, Ben Caoun, tout ça.
Ça remarque partout. Hein, c'est même
ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Il faut gagner parce que la pression est forte, exact. Mais en même temps, c'est même cette année, les gens allaient quand même au football, dans le sens que les foules étaient quand même là, peut-être moins vers la fin. Mais les gens vont quand même se présenter. Mais il faut juste pas leur dire non plus n'importe quoi. Il faut leur dire, on a un plan, mais ça va prendre quelques années. Laissez-nous le temps de développer, mais on va avoir des joueurs intéressants.
Il faut reconstruire, On peut pas se mettre à paniquer. Et c'est de là que va se bâtir une équipe, que va se bâtir un succès, puis probablement un autre coup bué. Selon moi, c'est ça. Rester calme, pas se combler sur la pression, être capable de repêcher un corps arrière, et de bien former, l'adapter à la LCF pour qu'il soit la pièce maîtresse des Alouettes. Et je trouve un entraîneur, comme Martin l'a dit, qui sera stable, qui sera là pour une saison complète et non des demi-saisons. On sait que ça a été un peu l'histoire des Alouettes dans les dernières années, avoir des entraîneurs qui font des demi-saisons et qu'ensuite le DG reprenne le dessus. On pense à Jim Pop notamment. Alors, en prenant tout ça en considération, je crois que c'est ça là, qu'il faut faire pour les Alouettes afin d'aller sur le bon chemin.
On a paniqué chez les Alouettes avec les corps arrière, avec la situation des corps arrière. Mm-hmm. On est allé chercher Darian Durant, qui était le corps arrière de la pire équipe en 2016, les Rough Riders, qui ont fini avec une fiche de 5-13. Pendant ce temps-là, les Rough Riders ont pris Kevin Glenn des Alouettes, Brandon Bridge des Alouettes et Vernon Adams des Alouettes. Et ils ont fini 10-8 cette année. Ils s'en vont en série. Fin de semaine. Donc, ils ont fait quelque chose qu'il fallait, tandis que les Alouettes ont paniqué.
C'est fou comment les autres équipes ont trouvé en nous ce qu'on n'était pas capable de trouver nous-mêmes.
Mais en même temps, c'est qu'on a littéralement, en général, quand on libère, on échange un joueur, c'est pas hors de notre contrôle. Là. Donc, les Alouettes ont quand même laissé aller ces joueurs-là.
Ouais, ben, c'est ça.
Donc, après, à eux de vivre avec les conséquences, mais comme tu l'as bien dit, c'est vrai que Darren Durant, en plus, qui a quand même un salaire assez élevé. Ça n'a pas été un bon investissement cette année.
Ouais, puis en plus, les entraîneurs ont paniqué aussi par la suite. On a coupé Kenny Stafford, Duron Carter, on les a laissés aller. On a coupé par la suite Bear Woods, Javon Johnson, SJ Green. Tous ces gars-là sont soit à Saskatchewan ou à Toronto, puis ils s'en vont tous en série.
Donc, leur saison se continue, se poursuit.
Ça fait très, très mal. Puis Chapdelaine, il y a des gars qui ne croyaient pas en lui. On pense à Nick Lewis qui a parlé à la Gazette de Montréal
beaucoup,
cette semaine.
Il a été assez franc dans ses propos.
Oui, Lewis qui a dit que Chapdelaine lui avait dit que...
Mais sans le nommer, mais...
C'est ça.
Sans le nommer, mais tous les indices.
Mais
au début de la saison, à la troisième semaine, c'est ça. Ouais, fait que c'est assez...
Ben écoutez, de mon côté, encore une fois, dans la même veine de ce que vous avez dit, je sais pas si le problème est vraiment uniquement relié à la direction. C'est certes qu'il y a extrêmement beaucoup de failles à ce niveau-là encore, et on n'a pas fini, comme vous l'avez dit, de trouver la pièce maîtresse, parce que on sait que c'est important d'avoir un coach d'expérience qui est stable dans une équipe. Mais écoutez, oui, l'offensive a été absolument piètre. Là. Ça a été... cherche le mot, là, parce que...
Putride.
Putride. c'est le mot qui a
été... Il n'y avait rien à faire. Là.
On peut tous les nommer.
Mais il reste tout de même, encore une fois, on l'a dit, la défensive n'a pas été non plus magistrale. Mais ça m'amène à ma troisième question.
Laquelle?
À ce niveau-là.
c'est ton côté positif là, qui ressort?
Oui.
Okay. Vas-y, pose ta question.
Qu'est-ce que l'équipe a réussi à bien faire pendant la plus récente saison? Et ce que j'allais dire, en fait, c'est que la brigade défensive, selon moi, malgré tous les défauts qu'on a pu trouver, a quand même été celle qui a le mieux fait dans l'équipe versus l'offensive. Écoutez, on a d'ailleurs Caris Herbert là, qui est finaliste pour le joueur défensif dans la section Est. Donc, juste ça peut en dire beaucoup. Donc, Évidemment, on en a parlé un peu tantôt. Les points positifs, ce qui est plate, c'est qu'ils ne semblent pas ressortir au niveau collectif, mais qu'il y a plusieurs niveaux positifs sur le plan individuel. Il y a beaucoup de joueurs qui se démarquent. Là, j'ai dit Caris Herbert, il y en a d'autres. Mais écoutez, c'est sûr que pour gagner des matchs, c'est pas au niveau individuel qu'on va le faire, c'est au niveau collectif.
Ouais, c'est ça, exact. Comme on disait tantôt, c'est sûr que certains joueurs ont connu une très bonne saison au niveau statistique personnelle, individuelle. Mais quand ton équipe finit avec une fiche de 3 victoires, 15 défaites, ça ne veut absolument rien dire. Donc, mais par exemple, comme tu dis, il y a certains points positifs. Faut pas non plus... puis on les oublie malheureusement parce que c'est sûr qu'on retient la fiche et la série de 11 défaites consécutives. Mais premièrement, Tyrell Sutton, le porteur de ballon des Alouettes, a connu vraiment une bonne saison dans les circonstances.
Ouais.
Ils l'ont pas utilisé beaucoup parce que souvent, ils tiraient de l'arrière par beaucoup de points. Donc, évidemment, le jeu au sol prend le bord. Mais... Puis surtout, ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il donnait toujours son 100%.
Oui.
Tu voyais, quand il perdait, il allait devant les journalistes, il disait « c'est gênant, mais on peut pas ». Puis tu voyais qu'il était là, puis malgré tout, puis malgré que les séries étaient hors de portée, il donnait à 100%. C'est vraiment un bon porteur de ballon. Au début de la saison, il menait même pour les verges. Bon, après, oui. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Il faut le garder, évidemment. Il doit être sur contrat, ça, c'est... mais dans le sens que il faut bâtir autour de lui. Puis évidemment, le garder. Comme on disait aussi, B.J. Cunningham, qui a connu une bonne saison, a franchi le cap des 1000 verges. Ça a été le meilleur receveur des Alouettes, malgré, là, comme tu dis, les points n'ont pas été... Il n'y a pas eu beaucoup de passes de toucher. Et aussi Boris Bédé, qui malgré tout, sur les unités spéciales, pour les placements, a connu vraiment une meilleure saison comparativement à l'an dernier. La première année était très bon. Après, une mauvaise année, même qu'on pensait qu'il pourrait ne plus être là. Cette année, c'est vraiment repris. Et en fait, les Alouettes ont fait beaucoup de placements plus que de toucher. Donc ça, c'est, au moins, c'était rassurant. Et évidemment, comme tu dis en défensive, Jonathan Mincy, il y a différents joueurs comme ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, la défensive était tellement souvent sur le terrain que c'est sûr que ça aide les statistiques, mais en même temps, ça nuit à la défensive en général parce que l'attaque faisait rien. Donc, c'est sûr que la défensive, à un certain moment donné, il se faisait... Exactement. Puis, il y avait beaucoup de points contre eux. Donc, c'est un facteur.
Ce qui serait important de souligner, c'est John Bowman qui a passé
plusieurs
saisons ici. Puis, à la fin de la saison, il était en larmes sur le terrain. Il était déçu. Il voulait faire les séries ici à Montréal. Puis, le reste de l'équipe l'a un peu laissé tomber. Même chose pour Luc Brodeur-Jourdain.
Exact.
Des joueurs fiers, des joueurs qui sont fiers de porter le chandail des Alouettes, puis que malheureusement, je pense qu'ils sentent que leurs coéquipiers n'ont pas fait le travail cette année. Donc,
ça a été, c'est ça. Collectivement, malheureusement, ça a été un désastre, mais il y a des joueurs comme ça qui ont tout donné et on peut juste les saluer. Nick Lewis aussi, qui a gagné quand même une bonne saison, a fracassé les records pour le nombre de passes captées. Donc, même si ça n'a pas été un facteur super important là, au niveau de la passe, étant donné que Kevin Durant ne faisait pas grand-chose, mais quand même les records individuels, c'est à souligner. Donc, il y a des points positifs, il y a de quoi, sur quoi bâtir, il y a des éléments, mais ça
va prendre du temps.
Disons qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'an prochain, ça soit du tout au tout. Non, si on est capable de faire les séries l'an prochain, ça serait... Je pense que l'objectif, c'est de faire les séries l'an prochain, sans penser à la coupe.
Non, évidemment,
si on ne les fait pas, c'est juste d'améliorer. T'sais, si on est capable d'aller chercher
joueurs,
au moins...
Développer du talent
canadien. Si tu as ton corps arrière, idéalement, là, il serait peut-être... C'est pas lui qui jouerait nécessairement la majorité des matchs l'an prochain. Là. Je veux dire, il faut lui laisser la chance aussi de se développer. Tu ne veux pas l'envoyer dans la mêlée trop tôt, blessure ou autre.
Exact.
Donc, mais il y a du positif, mais ça a été une saison assez difficile.
It's a process, comme le dit Thomas Reed.
It's a process.
Exact. Bon, maintenant, écoutez, les gars... On en a parlé un peu. J'ai mentionné le fait que les matchs, ça se gagnait en collectivité. Et parlant de ça, j'ai deux équipes au niveau NFL en ce moment qui surprennent, du moins à mon avis.
NFL, qu'on avance quand même assez bien dans la saison. On est rendu à la 10e semaine.
Ouais. Exact.
Donc la moitié est faite.
Donc ici, moi, les deux équipes que j'ai en tête, c'est les Rams et les Eagles, qui font extrêmement... qui font très, très bien en ce moment. Les deux sont... au premier rang de leur division. Et la question que j'avais pour vous, les Eagles qui ont 8 victoires, seulement une défaite, est-ce que vous pensez que ça peut durer? Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui n'a pas toujours été au top de la ligue. Donc, est-ce que c'est une ascension qui va être moindre ou vous pensez que peut-être ils peuvent espérer se rendre dans une finale de Super Bowl? Martin.
Écoute, moi, dans, c'est sûr que comme tu dis, il fait 8-1, la meilleure fiche de la Ligue jusqu'à présent. Carson Wentz est en feu. C'est une équipe qui est très équilibrée. Dans ma tête, il n'y a pas vraiment de doute qu'ils vont gagner leur division, malgré qu'ils ont quand même, y a quand même les Cowboys, mais ils ont beaucoup de matchs d'avance.
Exactement. Dak Prescott aussi qu'il faut
exactement.
Sauver.
Puis, tu sais, je regarde le reste du calendrier. Là, ils vont affronter bon, les Bears, les Rams, ça devrait être bon. Les Raiders sont en difficulté. Il y a quand même les Seahawks. Donc, ça sera pas le reste du calendrier n'est pas facile, mais à mon avis, ils vont finir premier de la division et sûrement de leur conférence. Mais comme ce sont les Aigles, tant qu'à moi, ils vont pardonnez-moi l'expression, ils vont choquer en série. Donc, je pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'au bout. En ce moment, je pense qu'ils ont une des bonnes équipes, mais je pense que, ne fût-ce que par le manque d'expérience un peu, ils se rendront pas jusqu'au bout. Donc, ils vont quand même être une excellente saison. Ils vont finir peut-être même premier de la Ligue. Peut-être gagner un match. En fait, s'ils finissent premier, ils vont avoir évidemment un bye en première semaine, donc ils vont être en congé. Mais après, peut-être vont gagner, mais à mon avis, ils vont s'incliner en finale de conférence. Donc, ils vont manquer un petit quelque chose, mais c'est une bonne équipe qui a un futur assez intéressant.
Oui, exactement. Un peu comme Martin l'a dit, Carson Wentz connaît une saison exceptionnelle. Là. Je tiens à rappeler 2262 verges par la passe, 23 passes de toucher. Alors, seulement 5 interceptions pour Wentz, c'est quand même assez remarquable. Mais il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre, comme Martin l'a dit. C'est sûr qu'ils pourront bâtir là-dessus pour gagner un certain momentum, gagner une confiance. Mais encore une fois, moi, je suis du même avis que Martin, dans le sens qu'ils ne pourront pas se rendre jusqu'au bout, je crois. Il y a d'autres équipes avec des joueurs avec beaucoup plus d'expérience qui ont tout en leur pouvoir pour se rendre jusqu'au bout. Je pense aux Patriots, naturellement.
Ouais.
Patriots qui reviennent à chaque année.
Les Saints aussi. Oui, les Saints sont très dangereux. Les Seahawks sont encore dans le portrait.
Ils sont sur une excellente série en ce moment, les Saints.
Oui, aussi, ils sont à surveiller. Donc,
Exact. Alors, c'est ça pour moi.
Oui, c'est ça. Les Eagles, donc, ils connaissent très, très solide saison, mais les séries, c'est toujours une autre paire de manches un peu. On a vu les Panthers de la Caroline finir 15-1 il y a 2 ans avec Cam Newton, puis une très, très belle équipe qu'ils avaient rendue au Super Bowl. C'était un petit peu trop pour eux. C'était un gros défi. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de défis dans la NFC pour les Eagles cette année, parce qu'on regarde les Rams, on regarde peut-être les Seahawks, mais encore là, ils ont une fiche de 5-3, puis ils n'ont pas l'air aussi solide qu'avant. Donc peut-être que les Eagles peuvent atteindre le Super Bowl, mais rendu là, c'est là que ça va se corser contre des équipes comme les Patriots ou les Chiefs.
Les Steelers aussi.
Ouais, les Steelers, c'est ça.
Donc, je ne sais pas s'ils sont prêts pour ce niveau-là déjà. Puis, il ne faut pas oublier non plus un élément très important qu'on a oublié de souligner, c'est que les fans des Eagles se font déjà tatouer le logo des Eagles gagnants Super Bowl.
Moi, j'en ai vu, je pense, pour les 3 prochains Super Bowl. Les gars qui allaient. Non, ça, c'est ce jinxé.
C'est un gros no-no, ça.
Non, c'est pas une bonne.
Il y en a qui sont vite en affaires.
Il y en a qui sont fous aussi.
Oui, il y en a qui sont fous aussi.
Et donc, on a parlé des Eagles, la deuxième équipe que j'ai mentionnée, des Rams, et les Rams qui sont surtout. Sont prédominants en fait du côté de l'offensive. Selon vous, les gars, qu'est-ce qui explique justement cette offensive-là spectaculaire? On voit des victoires là, de 40-0, 36-0 du côté des Rams. C'est quoi qui explique
ce phénomène-là?
Ben en fait, c'est vraiment une énorme transformation, puisqu'on s'entend que l'an dernier, c'est peut-être l'ère de Los Angeles, vous étiez avec Saint-Louis. Non, mais c'est sûr que, comme tu dis, en fait, je pense que c'est eux qui ont marqué le plus de points cette année.
Oui, du moins.
Je pense qu'ils ont même déjà, après 9 matchs, plus de points qu'ils en ont marqué durant toute la saison dernière. Donc, c'est vraiment un 180 degrés. Mais moi, pour moi, outre les performances des joueurs comme Todd Gurley qui en fait beaucoup plus, Jared Goff qui est plus à l'aise, mais puis avec Sammy Watkins qui arrive, c'est vraiment l'entraîneur, donc Sean McVay, qui a été embauché alors qu'il avait 30 ans, maintenant il est 31, le plus jeune de l'histoire. Il était coordonnateur offensif des Redskins de Washington pour les 3 dernières années, et les Redskins avaient vraiment une attaque super diversifiée, super explosive. Et là, les coachs, on a remplacé Jeff Fisher qui était 7-9, parce qu'il y avait toujours des fiches de 7 victoires, 9 défaites à la fin de la saison, qui ne savaient pas utiliser vraiment ses joueurs, ne mettaient pas en valeur les talents avec son système. Donc là, Sean McVay les utilise vraiment à leur plein potentiel, et les joueurs performent évidemment, mais c'est une surprise, parce que quand on y pense, ils n'ont pas nécessairement des joueurs vedettes en particulier.
Non, c'est ça.
Mais puis tout le monde contribue à leur façon, et finalement, ils ont aussi un excellent botteur, comme on disait, le botteur qui réussit tous les placements, donc Greg Zuerlein. Mais sinon, c'est vraiment, ça part de l'entraîneur. Donc il sait utiliser ses joueurs au maximum, il est jeune, il est dynamique, les joueurs embarquent. Puis c'est vraiment, c'est le fun d'avoir. C'est une équipe qui est super intéressante à regarder, peu importe, gagne ou perd. Et leur défensive est quand même solide aussi. Oui, à la base, elle a toujours été solide, mais maintenant, avec le coach, c'est comme si tout vient. Je pense pas qui se rendront jusqu'au bout. Encore le manque d'expérience, mais c'est vraiment très positif pour cette équipe-là.
Exact, ça regarde bien pour Los Angeles. On a parlé de Jared Goff, qui est de plus en plus à l'aise. Et Sean McVay, encore une fois, un peu comme Martin l'a dit, je crois que ça passe par l'entraîneur et le corps arrière. Si les deux vont bien, l'équipe va bien. Naturellement, on l'a dit aussi tantôt au fil de l'émission, c'est un jeu collectif. Les unités spéciales qui font de leur part aussi pour les Rams, c'est pas pour rien qu'ils sont 6 victoires de défaite en ce moment. Et non, effectivement, c'est prometteur. On voit de belles choses dans le cas de la nouvelle équipe de Los Angeles. Et on va voir ce que ça va donner pour les années futures, mais ça regarde bien, encore une fois.
Oui, ben en début de saison, je me souviens d'avoir lu des critiques acerbes à l'endroit de Jared Goff, qui était le premier choix overall en 2016 du repêchage.
Suivi par Wentz.
Oui, c'est ça. Puis, mais il fait tout un travail en ce moment, puis ces journalistes-là, ben, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont.
Ils sont cachés.
Ils
ne
vont pas se vanter trop, parce que Goff, il fait des très, très bonnes longues passes, il fait des bons petits jeux aussi. Donc, Sammy Watkins puis Robert Woods, les receveurs éloignés, ils captent une ou deux longues passes là, par match pour des touchés. Donc, c'est sûr que ça aide. Puis là, on regarde Todd Gurley ensuite. Donc, les équipes sont terrifiées. Ils doivent couvrir les zones profondes, mais ils doivent aussi couvrir pour le running back. Donc, ouais, Gurley qui détruit les défensives adverses carrément. Là. Donc,
il y a beaucoup d'armes.
Ils sont vraiment
excitants
à voir offensivement. Puis leur défensive fait le travail aussi. Ils ont moins de pression parce que l'offensive marque tellement de points.
C'est ça.
Puis, comme tu disais, un nouveau système avec un nouvel entraîneur jeune, un nouveau souffle, comme on dit. Donc, ça fonctionne très, très bien pour eux.
Oui, c'est ça. Si on avait un point, du moins quelque peu positif à retenir des Rams, c'était justement leur défensive. L'offensive qui était le plus gros problème. Et c'est en ce moment qu'on voit qu'on a réussi à corriger de manière assez directe le problème. Parce que c'est l'équipe, comme on l'a dit.
L'attaque, camoufle un peu les failles un peu de la défensive, parce que leur défensive est moins bonne qu'il y a quelques années. T'sais, notamment, je pense à une partie cette année contre les 49ers, ça a été comme, ça finit, je pense, 40. Ils ont accordé presque 38 points. Brian Hauer avait l'air d'être un génie offensif. Donc, je pense quand même, mais il marque tellement de points que ça donne un bon coussin à la défensive.
Ouais. Donc, merci les gars pour ces réponses. Maintenant, on va passer au fameux segment vert ou rouge. Oh. Donc, dans ce segment-là, en fait, je vous pose une question. Vous me répondez soit par vert ou rouge. Si vous êtes d'accord avec la question.
Quel carré étiez-vous?
Si vous n'êtes pas d'accord avec la question.
Non, on t'écoute.
Donc, la première question. Toujours dans la NFL, écoutez les gars, une blessure qui a fait mal dès le début de la saison. Tout le monde en a parlé et ça fait plus particulièrement mal aux Packers. Parce que Aaron Rodgers s'est blessé. Et on regarde en ce moment les Packers qui vont pas très bien en l'absence du joueur étoile. Et donc, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que Aaron Rodgers camoufle beaucoup de défauts chez les Packers? Martin.
Ben, si tu me dis beaucoup de défauts, je vais te dire vert. Si tu me dis tous les défauts, je te dirais rouge. Comme tu dis, blessure, fracture de la clavicule il y a quelques semaines, donc au niveau vraiment la moitié de la saison. C'est sûr que la perte de Rodgers est fondamentale. Ouais. Ça fait tellement mal. Je veux dire, c'est sûr que sans Rodgers, je vois pas comment les Packers vont pouvoir faire les séries. Donc, ce que Rodgers fait, c'est qu'il offre une chance à son équipe de gagner à chaque partie. En ce sens qu'il peut faire des remontées spectaculaires. On l'a vu plus tôt cette année contre les Cowboys de Dallas. C'est un des joueurs c'est un des meilleurs joueurs de la ligue et il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur carrière de l'histoire, mais c'est sûr qu'il donne une. Sans lui, l'attaque est rien. Je veux dire, les receveurs peuvent attraper n'importe quel ballon. Tu peux prendre n'importe. Même moi, je serais capable, je pense, d'attraper des ballons lancés par Aaron Rodgers. Lancés par Brent Hundley, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que, par exemple, ça camoufle pas tout parce que leur défensive est quand même toujours suspecte depuis plusieurs années. On l'a vu l'an passé avec Rodgers, ils se sont rendus contre les Falcons d'Atlanta et se sont fait détruire parce que dès que Rodgers a un peu plus de difficultés ou que la défensive met un peu plus de pression et qu'il ne marque pas autant de touchés, ben là, leur défensive se fait exploser. 40 points à ce moment-là, ben, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est sûr, c'est une pièce maîtresse, mais même avec Rodgers, je sais pas, je pense pas que c'est une équipe de Super Bowl et c'est mon équipe. Donc, la défensive est trop suspecte pour ça.
Ouais, un peu comme Martin, ça va être vert pour moi. Si je fais une comparaison au hockey, vite, je sais qu'on parle pas de ça, mais ça me tombe prendre l'exemple du Canadien avec Carey Price. Si Carey Price va très bien, c'est sûr que certains aspects du jeu des Canadiens vont passer dans l'ombre. Quand Carey Price n'est pas là, on pense à la saison, ça fait 2 ans, quand Price s'est blessé pour le restant de la saison, quand Dunn a pris la relève, il y a eu plusieurs failles dans le système de jeu des Canadiens qui ont ressorti. Je crois que c'est un peu le même cas dans le cas des Packers, justement, Aaron Rodgers qui peut faire des prouesses, mais sans lui, effectivement, encore une fois, genre la pièce maîtresse, c'est difficile de performer.
Oui. De ton côté, Éloi.
Oui. Donc, moi, je dirais que c'est pas vrai que Rodgers camoufle tous les défauts. On ne laisse pas vraiment la chance à Hyundai en ce moment de se familiariser avec le système de jeu puis faire des plus longues passes, faire ses propres jeux.
Parce que c'est maintenant, en fait, qu'on a la chance de voir ce qu'il peut amener à l'équipe.
Mais ça prend plus de temps que 2 semaines de familiariser avec un système de jeu aussi. Puis il faut admettre que, oui, Rodgers, c'est une pièce maîtresse de l'équipe. Ça fait en sorte qu'on bâtit l'équipe autour de lui. Donc, évidemment, puis là, on a perdu d'autres joueurs aussi, comme Brian Bulaga, qui est un plaqueur offensif important pour l'équipe. Donc, c'est sûr que ça ne va pas aider l'offensive, en général. Mais est-ce qu'il camoufle tous les défauts des Packers? Je pense pas. Sinon, il aurait gagné tous les Super Bowls depuis les 5 dernières années. C'est pas le cas. Donc, Rodgers a déjà été battu, puis on a vu les défauts des Packers à plusieurs reprises par le passé.
Mm-hmm.
Parfait. Donc, la deuxième question maintenant que j'ai pour vous, attention, celle-là, ça laisse beaucoup... J'ai hâte d'entendre vos propos, en fait,
Ça va débattre.
Donc, Martin, tu as parlé des Patriots.
Ah ouais?
Toujours
Au
Super Bowl.
Oui.
Évidemment, on
dit... Une dynastie.
On parle de Tom Brady aussi, ça va de pair.
Ben oui.
Donc, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que pour une fois... Les Patriots ne seront pas du Super Bowl, vert ou rouge?
Alors moi, je te dis vert, donc ils ne seront pas du Super Bowl. En fait, c'est surtout un souhait, parce que c'est vraiment une équipe que je n'aime pas, mais je vais rester objectif. Je suis capable de dire que c'est une excellente équipe, que Tom Brady, même cette année à 40 ans, joue comme s'il avait 20 ans. C'est vraiment un des meilleurs corps arrière. Mais je pense honnêtement qu'ils ne se rendront pas cette année. On a vu au début de la saison... En fait, depuis le début de la saison, ils sont un peu inconstants. Ils ont quand même une bonne fiche, ils mènent leur division. Mm-hmm. Tom Brady est incroyable, mais on a vu que la défensive était très suspecte. Pendant, je pense, 5-6 semaines, là, ça s'est replacé un peu, mais ça a accordé au moins 300 verges par la base à tous les corps arrière. Donc, ils ont eu... on dirait qu'en défensive, ça ne clique pas tout à fait. Donc, et même leur victoire, souvent, c'est relativement assez serré, notamment contre les Buccaneers de Tampa Bay. Même contre les Chargers, ça n'a pas été si facile. Puis les Chargers sont quand même une bonne équipe, mais ils ne sont pas aussi convaincants que d'habitude. En même temps, ils ont beaucoup d'expérience. Puis au final, les Patriots... puis je pense qu'il y avait une statistique aussi, c'est comme quand ils perdaient le premier match de la saison, ils ont gagné le Super Bowl les 2 dernières fois. Donc, ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Mais je pense que les Steelers... et les Chiefs sont mieux outillés, surtout les Chiefs, ils ont battu en ouverture à Foxborough. Oui, quand même, ça a été assez. Donc, je pense que les Patriots vont faire les séries, évidemment, peut-être en finale de conférence, mais je pense pas qu'ils vont être du Super Bowl. Et s'ils le sont, je pense pas qu'ils vont gagner.
Moi, je vais mettre un jaune parce que je suis vraiment mitigé entre les deux. Encore une fois, comme j'ai dit, si tu as un bon entraîneur, bon carrière, ça va bien. Tant et aussi longtemps que Bill Belichick va être là et que Tom Brady va être celui qui va faire les passes, les Patriots ont tout le temps une chance. Alors, je le souhaite pas un peu comme toi, Martin.
Tu vas jaune. Tu veux pas te prononcer?
Ben, honnêtement...
Allez, là, rouge ou vert, là?
Ben, si j'avais à dire, peut-être vert. Encore.
OK,
ben,
bon.
Moi, je pense que...
J'aime ça.
Je pense qu'ils ont une chance à chaque année. Alors, on verra. Ils ont l'expérience, comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, même sans des blessures. Et ils ont une défensive, justement, qui a de la misère à s'ajuster par moment. Ils ont toujours autant de chances.
Oui, c'est sûr qu'ils ont des chances. Comme Martin, par contre, je vais y aller avec non, ils n'atteindront pas le Super Bowl cette année. On a des équipes comme les Steelers puis les Chiefs qui sont vraiment construites pour pouvoir battre les Patriots puis les Chiefs. Ils l'ont fait d'ailleurs à la semaine numéro 1 d'une manière assez dominante.
Ils sont c'est convaincant.
Imposés contre les Patriots par 15 points quand même. Faut pas oublier non plus, les Patriots en ce moment sont 32e en termes de verges accordées en défensive. Ouais. Ils sont premiers en offensive pour les verges, mais ils sont derniers en défensive. C'est une équipe très, très énigmatique.
C'est bipolaire.
Mais c'est pas les Patriots qu'on a connus en défensive. Puis c'est quelque chose qui va... peut-être les ralentir si les autres équipes réussissent à neutraliser les belly tricks, comme on les appelle, de Bill Belichick à l'offensive, mais on ne sait jamais.
Oui, parce que tu sais, si on se replace juste avec les défensives qu'ils ont en ce moment, là, si on retourne au Super Bowl l'an dernier où on fait une remontée incroyable pour battre les Falcons, qui après ont joué très conservateur, mais reste que la défensive l'an passé au Super Bowl a quand même, en deuxième demi, fait des arrêts importants là, pour pouvoir. Mais cette année, c'était la même défensive, les Falcons auraient une avance insurmontable et de loin. Là, donc,
c'était la défensive, la première demi du Super Bowl de l'an passé.
Exactement. Mais là, à l'année. Donc, il va falloir qu'en défensive, ça se resserre. Je pense que ça s'améliore quand même, mais il va falloir que... C'est ça les points d'interrogation de mon côté.
Écoutez, là-dessus, je pense un peu, moi aussi, comme la première réponse d'Hugo qui était jaune. Je sais que le segment, c'est vert
bon,
ou rouge.
Bon, jaune. Mais... on va ajouter jaune ça, comme option.
Ça va. Ça va arriver par moment.
Parce que, écoutez, on a justement l'argument du fait que t'as Bill Belichick, t'as Tom Brady. Et ben, ces deux-là ensemble, ça peut tout faire. Tu l'as dit, Martin, la remontée contre les Falcons, cette soirée-là, même moi, j'y croyais pas.
Non, j'y croyais.
Enfin, je pensais que les Falcons...
Il y a peu de personnes qui y croyaient, même les partisans.
Les Falcons ont dominé le match complètement, autant offensivement que défensivement. Et
pour la première moitié, en tout cas.
Pour comme trois quarts, admettons.
Ouais, trois quarts.
Deux quarts et demi. Là,
ouais, trois quarts. Mais trois quarts et demi. La demi de plus fait beaucoup de différence dans un match, je dirais. Ouais. Et il y a cette... Il y a ce côté-là de la réponse. Mais de l'autre côté... On l'a dit, la défensive en ce moment est complètement méconnaissable.
Mm-hmm.
Et de mon côté, par contre, je les éliminerai pas justement parce que le simple facteur, le simple fait que tu as Tom Brady dans ton équipe change tout. Et j'irai, en fait, je vais dire ma prédiction. Okay. C'est peut-être un peu poussé, mais je vais y aller.
Mais il y a avec... du jaune en tout cas.
Ouais, mais je vais y aller avec les Cowboys.
Que les Cowboys vont gagner le Super Bowl, c'est
non,
ce que tu
dis? Non. Les Cowboys n'ont pas gagné, mais ils vont peut-être faire partie du Super Bowl.
Okay.
Je crois beaucoup en Dak Prescott, en Ezekiel Elliott, Jason Garrett, le coach. Dak Prescott, pour moi, c'est peut-être un des futurs piliers de la NFL.
Ah, oh, certainement. C'est un des meilleurs carrières.
Il est incroyable en ce moment.
Ouais.
Écoutez, Dallas en ce moment qui a une fiche de 5 victoires, 3 défaites.
Mais là, aujourd'hui, on a appris par exemple que Ezekiel Elliott, sa suspension était réintroduite. Donc, en théorie, il va manquer les. Mais s'il manque les 6 prochains matchs, va être de retour pour la fin de la saison. Donc, pour les séries, il sera disponible. Ouais. Mais encore là, faut-il qu'il se rende. C'est sûr, ça fait mal.
Mais il est excellent, Elliott, mais il y a aussi une excellente ligne offensive.
Oui, tout à fait. Donc, Alfred Morris et autres peuvent faire le travail. Non, mais comme tu dis, Dak Prescott est définitivement un des meilleurs joueurs de la ligue.
Donc, mais de mon côté, pour ma réponse finale, je crois que les Patriots vont encore une fois remporter les grands honneurs.
OK, mais là, c'est pas jaune à ce moment-là.
C'est pas jaune, c'est vert. J'ai commencé
le
jaune,
mais est ça facile. Tourne au vert. OK, là, passe à ta prochaine question. Là.
La troisième question que j'avais pour vous, les gars, à propos de Carson Wentz, est-ce qu'il peut remporter le titre de MVP cette saison?
Ah, la réponse est oui.
C'est vert.
Moi, je vais pas avec du jaune. C'est vert, tout à fait. Comme on dit, il y a beaucoup de blessures cette année. Normalement, des candidats là, logiques comme Aaron Rodgers, même David Johnson, J.J. Watt, Odell Beckham. Il y a beaucoup de blessures. Donc, c'est sûr que...
Ça avantage les gens qui sont...
Exact. Matt Ryan ne connaît pas une bonne saison non plus. Donc, Carson Wentz avec Tom Brady et Alex Smith en ce moment. Souvent, c'est des carrières aussi, il faut le dire. Pas tout le temps, mais...
Il sort du lot en ce moment avec la performance des
Eagles. Et effectivement, donc la fiche de 8-1, Tom Brady pas loin derrière. Ça va dépendre aussi, il reste encore beaucoup de matchs, donc ça peut changer. Mais en ce moment, c'est le favori. C'est sa deuxième année seulement dans la Ligue. On savait qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais. Et jusqu'à maintenant, gère de... En même temps, il y a beaucoup de... C'est une équipe qui est très complète, mais il joue très bien. Donc, s'il continue comme ça, à mon avis, le titre d'MVP lui sera décerné.
Oui, exactement comme Martin l'a dit, ça va être vert pour moi aussi. Mais il y a des statistiques qui parlent pour lui. 23 passes de toucher, seulement 5 interceptions, 2262 verges par la passe, pardon. Alors, prenant tout ça en considération, la direction où son équipe se dirige en ce moment, sa confiance sur le terrain, le fait que c'est seulement sa deuxième année dans la NFL, il y a beaucoup de choses qui parlent pour lui en ce moment. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier Alex Smith et Tom Brady qui sont derrière. Mais je crois que Carson Wentz va s'emparer du titre à la fin de la saison.
À moins qu'il se blesse.
Exact.
À moins qu'il se blesse, oui.
On va continuer la ligne verte ici. Carson Wentz. Ben, le joueur le plus utile, c'est... le MVP, c'est le joueur le plus utile à son équipe. C'est celui qui fait une différence. Les Eagles, il y a 2 ans, puis les années précédentes, étaient... pas médiocre nécessairement chaque année,
mais il était
une équipe correcte, peut-être pas les joueurs forts, mais
en moitié de
pas
peloton,
en série, disons. Là. C'était pas une équipe qui pouvait prétendre à ça. Puis là, Carson Wentz, non seulement il est très, très bon, mais il rend des autres meilleurs. Non, il rend ça. Nelson Agholor, par contre, que lui, il échappait tous les ballons avant.
Mais quel retour d'Agholor cette année. On pensait, je ne sais même pas s'il jouait encore. Là,
avoir Carson Wentz, c'est comme si ça mettait tout le monde en confiance.
Zach Ertz aussi.
Zach Ertz.
Donc, oui, assurément, ouais, avec Zach Ertz, c'est une très, très belle connexion aussi. Donc, oui, assurément. D'après moi, il n'y a personne qui se démarque autant que lui dans la NFL cette année.
Donc, on a finalement un studio vert. Donc, moi aussi, je vais dire
vert. Pas mis de jaune.
j'ai pas mis de jaune
cette fois-ci. C'est
pas mitigé. Évidemment, comme ça a été dit, les blessures qui avantagent beaucoup Carson Wentz de ce côté-là, parce que ça permet encore une fois à ceux qui sont peut-être qui s'illustrent moins d'habitude parce qu'ils sont dans l'ombre des joueurs comme Aaron Rodgers et Tom Brady. Tom Brady est encore là, évidemment, mais la raison pourquoi je pense pas qu'il va le remporter, c'est parce que, comme tu l'as dit, Éloi, le titre de MVP, c'est le joueur qui fait la différence pour son équipe. Et en ce moment, pour que Brady remporte cet honneur-là, faudrait, comme j'ai dit plus tôt, qu'il fasse une remontée spectaculaire. Parce qu'en ce moment, il est bon, mais c'est pas le meilleur. Et je crois que le meilleur en ce moment, c'est Carson Wentz.
Ouais. Je suis d'accord. Mais en même temps, enlève Brady de cette équipe-là, les Patriots n'ont pas la même fiche. Donc, il est quand même essentiel à son équipe.
Que quand il a été blessé, Garoppolo a fait le travail, puis Brissett a fait le travail aussi.
Ouais, non, je suis d'accord, mais à ce qu'il fait à 40 ans, c'est quand même super impressionnant. Mais pour l'instant, Wentz est favori, donc à moins qu'il connaisse vraiment une mauvaise deuxième moitié de saison ou qu'il se blesse.
C'est pour la carrière.
C'est ça, exactement. Bien raison. Donc, du vert.
Du vert, partout. Et finalement, on arrive à la dernière question de ce segment vert et rouge. Est-ce que Deshaun Watson peut remporter le titre de rookie de l'année malgré sa blessure?
Donc, si c'est rouge, non. C'est impossible. Je vais te dire tout de suite, c'est impossible, pense même pas. Mets pas ton argent là-dessus, disons. Non, mais honnêtement, Deshaun Watson qui s'est déchiré le ligament croisanteur du genou, donc à la pratique en plus, donc c'est même pas en encore du match, c'est très crève-cœur aussi pour les Texans. Parce qu'il connaissait une saison recrue incroyable. Il lançait des passes de tuer à un rythme jamais vu. Les gens étaient emballés par lui. Bref. Il connaissait, c'est sûr que s'il s'était pas blessé, il aurait eu, ça aurait été sûrement lui, là, presque sûr. Mais quand tu joues pas la moitié des matchs de la saison pour blessure ou pour une autre raison, le titre est très difficile à obtenir, là, à moins que ça soit, il n'y a pas de compétition. Il y a des années où les recrues sont bons, peut-être un peu, s'illustrent un peu moins. Mais dans ce cas-là, c'est impossible à cause de la blessure, malheureusement. Ça aurait été le favori. Mais sinon, il faut penser à Kareem Hunt avec le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City qui ralentit un peu, mais encore là, c'est qu'il n'est pas utilisé beaucoup. Mais encore là, jusqu'à maintenant, c'était au moins des 100 verges là, et par la passe et par la course au total là, à chaque partie. Leonard Fournette avec les Jaguars qui donne aussi une chance à son équipe. Faut pas oublier aussi Alvin Kamara avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui est un porteur de ballon ultra explosif. En défensive, il y a aussi Marshon Lattimore avec les Saints. Donc, après, il y a le titre de recrue défensive totale et autres, mais malheureusement pour Deshaun Watson, c'est comme sa saison, il faut mettre une croix là-dessus. Ouais. Mais il va être assuré l'an prochain en espérant que son genou
En espérant que sa blessure n'a pas
eu d'impact
détruit.
C'est ça. En même temps, il va avoir le temps de se remettre parce que la saison prochaine n'est pas tout de suite. Donc, c'est pas une blessure à la fin. Puis, il y a beaucoup de joueurs maintenant qui ont des ruptures. Puis, ils reviennent quand même correct. Mais c'est sûr qu'un genou, il faut faire attention.
C'est
donc,
fragile,
on sait jamais, mais on croise les doigts parce que c'est un joueur vraiment explosif et intéressant à regarder.
Oui, comme Martin Rouge de Sean Watson, exactement, qui est très prometteur. Mais il y a aussi plusieurs titres qui peuvent s'en venir à son égard. Comme je dis, c'est statistique. Cette année, on parle de 19 passes de toucher, 8 interceptions, 1699 verges par la passe. Pardon.
Alors, ça, c'est en très peu de minutes. Là.
En fait, il n'a pas vraiment joué le premier match. Non, il est arrivé en remplacement de Tom Savage qui se faisait littéralement exploser par la défensive des Jaguars, mais il n'a pas joué beaucoup.
Exact.
Et il était tellement efficace.
Des chiffres très impressionnants, mais encore une fois, une blessure, ça vient mettre un terme à plusieurs choses. Mais très prometteur, un futur très prometteur pour la carrière des Texans, ça c'est sûr.
Oui, je ne sais pas à quoi les Texans ont pensé en début de saison avec Tom Savage, ça ne donnait pas une grosse chance à l'équipe de gagner.
Ils voulaient le développer, les plans c'était...
Parce qu'on a le talent brut là, de Watson qui est là, puis il a fait une performance vraiment splendide durant la première année, mais je vais y aller avec Rouge aussi, parce que comme vous l'avez dit, Hunt, Kamara, c'est des performances qui sont très constantes sur toute l'année, puis oui, c'est un très bon joueur pour Watson, une très bonne saison, mais il a seulement disputé 7 matchs. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si utile à l'équipe que ça. Puis, comme recrue de l'année, ça prend quelqu'un qui peut jouer l'année.
Exact.
Au moins 14 matchs sur 16. À moins, comme je te dis, que ce soit que les matchs où il soit à ce point éblouissant.
Encore une fois, à ce niveau-là, évidemment, moi aussi, je vais dire rouge à la question. Mais ça dépend s'il y a d'autres blessures qui s'ajoutent. À ce niveau-là, s'il y a d'autres recrues qui sont favorites pour remporter les grands honneurs qui se blessent.
Si tout le monde se blesse. C'est tous ceux qu'on a nommés et on croise les doigts parce qu'on veut pas. On touche du bois parce que c'est vraiment.
Je suis entièrement d'accord avec le fait que, évidemment, il faut jouer au moins, je dirais, environ 12-14 matchs dans une saison pour remporter le titre. Mais du moins, ça augure bien, on l'espère. Pour la prochaine saison.
Ah, tout à fait. Mais à ce moment-là, ça sera plus recru, malheureusement. Mais s'il continue à jouer comme ça, il aurait pu même être sûrement MVP. Là.
Exact.
Je veux dire, s'il avait continué à ce rythme-là, je pense que même Carson Wentz aurait, il aurait été, ça aurait été peut-être les deux. Là, parce que
les Texans n'ont pas une fiche aussi reluisante que les Chiefs.
Non, mais depuis qu'il est en feu, ils ont perdu des matchs super serrés aussi là, contre les Patriots, contre les Seahawks, c'était dans la minute. Là, puis c'est à cause de Deshaun Watson qui ont pu même être espérés gagner. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais tant qu'à moi, il avait une saison record, autant pour recrues. Puis il aurait sûrement pas gagné MVP, mais il aurait eu des votes pour parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il faisait.
Mais encore une fois, pour Watson, comme j'ai dit tout à l'heure, un futur très prometteur. Alors, c'est sûr que les trophées individuels vont venir de son chemin.
Ouais, si le genou résiste.
Ce qui est inquiétant avec un genou, c'est qu'on pense notamment à Robert Griffin, le troisième en français.
Le troisième oui, c'est ça.
Qui, malheureusement, a subi tellement de blessures au genou que sa carrière était finie. Là,
il n'a jamais pu être le même.
Puis, il y a eu une grosse saison recrue aussi. Donc, on ne sait jamais, mais on espère que pour Watson, ça va être mieux que les années à venir.
Exact. Ouais. Ben, écoutez, les gars, c'est ce qui compte.
Déjà.
Ouais, oui,
déjà.
On aurait pu en parler pendant des heures.
Ben ouais. On attendait d'autres questions.
Ben écoutez, c'est ce qui conclut cette troisième épisode d'Au Quartier Général. Écoutez les gars, je vous remercie d'avoir été avec moi.
Merci,
pour cet épisode. Entre-temps, pour ceux qui écoutent, vous pouvez nous rejoindre sur le site www.surleban.ca pour consulter les chroniques, entre autres, de Martin, Hugo et Éloi qui étaient avec moi ce soir. Et vous pouvez également vous rendre sur Balado Québec pour écouter nos podcasts qui sont également disponibles sur iTunes et Google Store.
Et oui.
Donc, entre-temps, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine.
Bon football.
Merci. Yes.